Et on commence par une étude parue dans Nature Communication. Une équipe du CNRS a découvert le point faible du SARS-CoV-2, ce serait son ARN polymérase.
Et la polymérase, c'est une enzyme qui est codée par le génome du virus et qui est chargée de faire une copie fidèle de son matériel génétique. Dans le cas du coronavirus, c'est une longue molécule d'ARN. Alors parfois il y a des erreurs, mais cette polymérase est capable de réparer les erreurs qu'elle fait pour assurer une stabilité génétique au virus. Ces chercheurs ont mis en évidence que pour le SARS-CoV-2, cette polymérase est extrêmement rapide. Elle est 10 fois plus rapide que chez le virus de l'hépatite C, par exemple. Alors que la molécule d'ARN du coronavirus est 3 fois plus longue. Alors, l'avantage pour le virus, c'est que cela laisse moins de temps au système immunitaire pour le détecter. Mais cet atout est aussi un talon d'Achille. Bruno Canard, directeur de recherche au CNRS à l'université Aix-Marseille, est l'auteur principal de cette étude. Il montre que certaines molécules qui agissent sur la réplication virale peuvent pousser le virus à commettre des erreurs catastrophes.
On a pu mettre en évidence qu'il y avait des déterminants structuraux, des choses visibles dans la structure de cette polymérase qui font que cette copie est beaucoup plus rapide. Et le fait qu'elle soit plus rapide se fait au détriment de la fidélité de la réplication. Ce qui veut dire que quand on fait les choses trop vite, souvent on ne le fait pas très bien. Donc la polymérase va extrêmement rapidement, mais du coup elle est beaucoup plus permissive à insérer des molécules qu'on peut lui fournir qui vont agir comme des leurres sur la réplication. Et donc le corollaire de nos recherches, c'est non seulement on a mis en évidence des propriétés extraordinaires qui expliquent des parts d'évolution des virus à long génome, mais en plus on va pouvoir étudier et utiliser cette propriété pour fabriquer des médicaments de nouveau type. Donc, comme test de notre modèle, on a pris le favipiravir ou l'avigan, qui est une molécule qui agit sur ce style de polymérase et ce style de réplication et qui était sur le marché pour le virus de la grippe. Et on a pu montrer que l'avigan, effectivement, agit comme leurre de cette polymérase et pousse le virus dans son retranchement, son dernier retranchement, qui est de faire trop de mutations et donc un point tel que ça devient létal. Et donc, ces mutations sont faites à un tel taux que le système de correction, qui était unique au coronavirus, n'arrive pas à suivre et à corriger les erreurs. Donc, ça peut être utilisé. Donc, effectivement, pour l'avigan, c'est pas une molécule formidable, puisqu'elle est juste apparemment à la limite d'efficacité, mais ça donne beaucoup d'espoir pour isoler, trouver des molécules qui vont agir suivant ce mécanisme.
Voilà, et on suit bien sûr tous les jours dans le Journal des Sciences l'actualité liée au coronavirus et également tous les vendredis matins à 7h15 pour la nouvelle radiographie du coronavirus hebdomadaire, cette fois dans la question du jour et dans les matins de Guillaume Erner. Et on passe au bref. La revue britannique The Lancet va renforcer l'évaluation par les pairs.
Ouais, cette décision fait suite au Lancet Gate, quand le 4 juin dernier, la revue avait dû rétracter un article douteux à propos de l'hydroxychloroquine. Avant d'être publiée, une étude est soumise à un comité de lecture où des chercheurs vont juger les travaux de leurs pairs. C'est la fameuse évaluation par les pairs. Dorénavant, la revue exigera une plus grande transparence et un meilleur partage des données des études évaluées. Au moins un des examinateurs devra être au courant des détails de l'ensemble des données rapportées. Les éditeurs déclarent aussi porter plus d'attention aux éventuels soupçons sur l'intégrité d'une recherche. De plus, les prépublications seront acceptées pour que n'importe qui puisse les examiner.
Selon une étude parue dans The Astrophysical Journal, on connaît enfin la quantité totale de matière présente dans l'univers.
Oui, nous savons que la plus grande partie de l'univers est constituée d'énergie noire, la mystérieuse force qui conduit l'expansion de l'univers. Et nous savons que tout le reste, c'est de la matière ordinaire et de la matière noire. Des chercheurs américains ont déterminé avec précision la proportion de chacun de ces éléments. Ils ont d'abord développé le Galweight, un outil pour mesurer la masse d'un amas de galaxies via les orbites de ces galaxies. Selon leurs calculs, la matière ordinaire et la matière noire combinées représentent 31,5% de la composition de l'univers. Les 68,5% restants sont de l'énergie noire.
Et enfin, selon une étude parue dans Nature Human Behavior, les bonnes nouvelles influencent nos prises de décision.
Oui, des chercheurs du CNRS et de l'INSERM ont mené plusieurs expériences avec une centaine de volontaires. Les cobayes devaient faire des choix, libres ou contraints, avec à la clé des récompenses ou pas de récompenses. Cette étude montre que pour prendre une décision, les bonnes nouvelles ont plus de poids que les mauvaises et surtout, les événements positifs ont plus de valeur, mais seulement lorsqu'ils sont le fruit de notre action. Ce biais cognitif n'est pas seulement un biais d'optimisme, c'est aussi un biais de confirmation du choix. Bref, nous préférons les bonnes nouvelles quand elles valident nos propres choix.